proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Paul Salmona qui nous parle de l'archéologie du judaïsme en France, paru aux éditions La Découverte. Bonsoir Paul.
Bonsoir Sandrine.
Alors pour une fois, ce n'est pas le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme que nous recevons, mais le passionné d'archéologie. Dans une autre vie, vous nous expliquerez, vous avez été à la direction de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive et l'organisateur du colloque Archéologie du judaïsme en France et en Europe. Donc c'était en 2010 et les actes ont été publiés en 2011. Et votre actualité, c'est donc la parution de l'archéologie du judaïsme en France aux éditions La Découverte. Déjà, première question, est-ce que c'est une passion l'archéologie et si oui, d'où vous vient-elle ?
Oh bah c'est une passion qui remonte à l'enfance, mais que j'ai eu le plaisir de pouvoir transformer en activité professionnelle, puisque pendant 8 ans, j'ai été directeur du développement culturel. Je n'étais pas directeur de l'Institut à proprement parler, mais enfin. Et donc, je me suis intéressé à l'ensemble des travaux de recherche archéologique qui se déroulaient en France. Et ça, après d'assez nombreuses années à l'Auditorium du Louvre, où là j'ai pu m'intéresser à l'archéologie à l'étranger, parce que le Louvre fouille beaucoup à l'étranger. On invitait beaucoup d'archéologues étrangers, en particulier tout ce qui se fait autour du bassin méditerranéen. Et à l'INRAP, donc à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, vous savez, l'archéologie préventive, c'est l'archéologie qu'on fait avant les grands travaux, pour éviter de bloquer, en fait, les chantiers. J'étais tombé sur un certain nombre de sites du judaïsme médiéval ou moderne en France. Châteauroux, Châlons-en-Champagne, Metz, et d'où ce colloque que vous avez évoqué, et d'où un intérêt que j'ai prolongé en arrivant au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et qui débouche aujourd'hui sur ce livre, qui est le 13e livre d'une collection qui s'intitule « Archéologie de la France ». Voilà, et qui couvre en fait l'ensemble de la chronologie de l'histoire de France depuis le paléolithique, donc l'âge de pierre, comme disaient les archéologues au 19e siècle, jusqu'à la période contemporaine, et avec maintenant des ouvrages transversaux, thématiques, comme celui-là, puisqu'en fait l'archéologie du judaïsme en France, ça va de l'Antiquité, des premières traces de la présence juive, jusqu'à la période contemporaine.
Alors on va en parler justement dans un instant. Le sujet même suscite un grand nombre de questions et on va parler aussi plus précisément de l'articulation de cet ouvrage. Finalement, l'archéologie comme preuve de la longue présence juive en France, qu'est-ce que nous apprend d'une manière générique l'archéologie sur les origines de la présence des juifs sur le territoire de la France ? Alors je remarque aussi d'un point de vue terminologique, c'est qu'à plusieurs reprises vous ne vous dites pas la France mais le territoire de la France qui a évolué en fonction de l'histoire.
Oui, c'est une précaution oratoire parce que, comme on sait, la France n'a pas toujours eu les frontières qui sont les siennes aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de l'Antiquité, le terme de France est impropre. Il faudrait dire les Gaules et le dire au pluriel. Et lorsqu'on parle du royaume de France à l'époque de Philippe Auguste, il est assez riquiqui par rapport à l'hexagone actuel, si vous voulez. Voilà, donc c'est... Mais bon... Alors, il s'agit bien de la France considérée comme on la considère aujourd'hui. Alors, les premières traces, c'est un semis de vestiges, il n'y en a pas énormément, qui sont essentiellement localisés dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle dans l'Antiquité la Narbonnaise, même si la Narbonnaise inclut en fait la Provence, avec notamment cette petite lampe romaine à décor de double menorah, qui a été trouvé à Orgon, à côté de Cavaillon, qui est aujourd'hui au musée de Cavaillon, et qui serait daté du 1er siècle avant notre ère. Alors on ne sait pas si elle a appartenu à un juif installé ou à un voyageur. Ça c'est évidemment, la fouille ne le dit pas. Il y en a une autre qui a été trouvée à côté de Bagnols-sur-Cèze, par Jean Charmasson. On en a une aussi au musée. Alors celle-là est au musée, on peut la voir d'ailleurs, elle est dans la deuxième salle, dans la salle que nous appelons la salle médiévale, et qui... Dont on pensait qu'elle venait de la Charente, d'une fouille subaquatique dans la Charente. Elle avait été acquise par un collectionneur au 19e siècle et donnée au musée de Cognac qui nous l'a déposée. Et puis en fait, on sait maintenant que ce collectionneur, Louis-Gabriel Cor, s'était fait, passez-moi l'expression, refiler pas mal de rossignols. Et donc on est sûr que la lampe est authentique, mais on n'est pas du tout sûr qu'elle vienne de la Charente. Alors évidemment, si elle vient de Palestine ou de, ou de Rome ou du sud de l'Italie, elle n'a aucun intérêt comme marqueur de la présence juive. Mais surtout, la grande découverte, c'est en 2009, la découverte d'un sarcophage double. Donc c'est à la fois une découverte fondamentale sur le plan scientifique et une découverte assez bouleversante sur le plan humain, on pourrait dire, hein, puisque c'est un sarcophage double d'un homme et d'une femme, donc du mari et de son épouse. Lui s'appelle Kossothios Eutychles, c'est un nom grec, qui peut tout à fait être le nom d'un juif grec en vérité, hein, mais en l'occurrence son nom c'est rien. Et elle s'appelle Pompeia Iudea, ce qui veut dire littéralement Pompée la juive. C'est un sarcophage qui a été découvert à Arles, dans le quartier de Trinquetaille, c'est-à-dire sur la rive droite du Rhône. En face hein, de la ville médiévale, de la ville fortifiée, pas très loin, somme toute, du musée de l'Art antique. D'ailleurs, c'est Alain Genot, qui est archéologue au musée de l'Art antique, qui l'a fouillé. C'est un sarcophage qui a été découvert lors d'une surveillance de travaux, même pas d'une surveillance de travaux, d'ailleurs d'une découverte fortuite pendant l'installation d'une conduite d'adduction d'eau par Veolia. Et donc, il date du 3e siècle de notre ère. Et donc là, on a la première nomination archéologique, hein, la première épigraphie, on pourrait dire, d'un juif, en l'occurrence une juive, sur le territoire de la France actuelle.
C'est passionnant ce que vous nous racontez. On viendra dans un instant sur la question des aires géographiques hein, où on trouve ces rares vestiges. J'avais une question à vous poser au préalable. Juste avant votre introduction, donc au début du livre, la première illustration, le premier visuel est celui qu'on connaît tous hein, du célèbre bas-relief ornant l'arc de Titus à Rome. Donc cette procession qui sonne la fin du royaume de Judée après la destruction du Second Temple. Ce n'est pas un vestige français en France. Est-ce qu'il y a une volonté d'inscrire par ce visuel cette histoire archéologique des Juifs de France dans une histoire européenne ?
Ben, c'est-à-dire que, en fait, ça c'est vraiment un document, donc le bas-relief hein, de l'arc de Titus à Rome, c'est un document sur donc la prise de Jérusalem, la destruction du Temple, dont on sait qu'elle a marqué, en tout cas, une étape importante de la diaspora. En vérité, la diaspora juive dans le monde méditerranéen est antérieure hein, à la deuxième destruction du Temple. Et,
alors, est-ce que c'est probablement suite à la première destruction du Temple par Nabucodonosor au moins 586 ?
Alors, comme dit Carlo Ginzburg, le grand historien italien, c'est difficile d'argumenter en l'absence. Hein. Il emploie la formule en latin très élégamment, je ne le ferai pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des Juifs disséminés dans tout le bassin méditerranéen. On en a en Afrique du Nord, probablement parce qu'ils sont arrivés avec les Phéniciens. Hein, et on en a dans l'Empire romain occidental. On en a, voilà. On a des traces, Alors, ça c'est postérieur à la deuxième destruction du Temple, mais on a des catacombes romaines très importantes à Rome. Hein, il y a au moins cinq ensembles de catacombes juives hein, à Rome. On a une synagogue antique qui d'ailleurs a été là aussi découverte dans une opération d'archéologie préventive en 64. Lorsqu'on a construit l'autoroute qui va de Rome à l'aéroport de Fiumicino. On a une synagogue récemment découverte à Bova Marina, en Calabre, une autre à Elche, en Espagne. On sait qu'il y avait des Juifs à Cologne. Hein, donc, vous voyez, si on fait une triangulation, en quelque sorte, entre l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, hein, les bords du Rhin, qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Il y a la France, hein, la Gaule. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis ? C'est plus difficile à dire. Hein. Je veux dire que, est-ce que c'est dans l'éthos des Juifs que d'être des voyageurs et des immigrants ? Ou est-ce qu'ils sont partis forcés contraints parce qu'une partie d'entre eux avait été déportée ? Voilà, je n'ai pas la réponse en vérité. Ce qu'on sait, c'est que Strabon dit qu'il y a des Juifs dans toutes les villes. Voilà.
Et que les traces de la présence juive sont antérieures à cet arc de Titus, à plus 70 en France.
Tout à fait, oui, absolument. Alors, ce qui est antérieur, c'est la lampe d'Orgon, même si c'est très discuté, hein, parce qu'il y a un certain nombre de spécialistes qui estiment que les représentations de la menorah sont toutes postérieures. Mais en réalité, si on a au musée d'Israël un bas-relief, une gravure plutôt, murale, d'une menorah qui est antérieure, qui est du 1er siècle avant. Donc on peut tout à fait imaginer qu'elle soit du 1er siècle avant. Et puis bon, le rôle de l'archéologie, c'est aussi de montrer à travers des faits matériels que ce qu'on considère comme étant la doxa, hein, ce que tout le monde considère comme acquis, ben, n'est pas toujours la réalité.
Alors le choix de la table des matières est chronologique, mais il y a aussi la géographie. Alors finalement, qu'est-ce que l'archéologie dit de la présence juive ? Quelles sont les grandes zones géographiques où les Juifs se sont trouvés sur le territoire de France ?
Alors, ce que nous disent les vestiges, il faut faire la part entre les vestiges et puis d'autres éléments d'information, bien entendu. Hein, parce qu'on se, l'archéologie n'est pas une science autiste. Hein, elle travaille aussi avec les archives, à travers l'épigraphie, etc. Ce que nous disent les vestiges pour l'Antiquité, c'est le sud de la France. Hein. J'ai cité ces trois lampes romaines tout à l'heure. On peut citer aussi deux vestiges très importants, dont un est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est la stèle d'Auch, hein, dans le Gers, qui est du 5e, 7e siècle. On ne sait pas exactement la dater. Puis il y en a une autre qui est une stèle en latin, comme les stèles funéraires des Juifs à Rome, hein, qui sont en latin, mais avec parfois une inscription un mot en hébreu. Et puis, en l'occurrence, celle d'Auch, il y a la gravure d'une menorah. D'une menorah et d'un loulav et d'un étrog, si j'ai bonne mémoire. Il y en a une deuxième qui est à Narbonne, au musée lapidaire de Narbonne. Et là, c'est vraiment une stèle funéraire, on en est sûr. C'est la stèle de Matrona, Dulciorella et Justus. Donc là aussi, trois noms romains, mais les Juifs avaient des noms latins. Hein, trois noms latins, pardon. Et on connaît la date de leur mort, hein, parce qu'elle est précisée sur la stèle. Et donc là, on est à la fin du 7e siècle. Hein, pour l'Antiquité, le Haut Moyen-Âge, il y a une présence essentiellement dans le sud de la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Juifs au nord, simplement on n'a pas de vestiges archéologiques. Ensuite, on a un florilège de vestiges au nord de la France, à travers les stèles funéraires des cimetières médiévaux. Alors là, on bascule dans un autre monde, d'une certaine manière, puisque là, toutes les stèles sont en hébreu. Hein, et c'est tout à fait corroboré par l'ensemble de la toponymie, c'est-à-dire toutes ces rues aux Juifs qui parcellent nos villes et nos villages, hein, rue aux Juifs, rue de la Juiverie. Ça, c'est en français, mais il y en a aussi en occitan, en provençal, en alsacien, etc., etc. Elles ne sont pas toutes référencées, repérées, parce que dans certains cas, les élus ont changé les noms des rues, et elles sont la trace, en quelque sorte, fossile de cette présence juive, puisque quand on a une rue aux Juifs, c'est qu'il y avait des Juifs au Moyen-Âge, avant les expulsions médiévales. Et donc, c'est resté dans l'appellation moderne, au fond. Hein. Comme, je ne sais pas, la rue des Teinturiers à Avignon, hein, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de Teinturiers, mais elle s'appelle toujours la rue des Teinturiers. C'est un peu la même chose.
On a l'impression qu'il y a une sorte de mouvement au travers de cette histoire. Hein, vous l'avez dit en introduction, on va vraiment de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, un mouvement du sud vers le nord.
Oui, c'est le mouvement de la colonisation romaine, en tout cas au début. Alors ensuite, il faut pas faire dire aux vestiges ce qu'ils ne disent pas. Et d'ailleurs, paradoxalement, au Moyen-Âge, et notamment dans la toponymie, on a beaucoup plus de vestiges. Enfin, on a beaucoup plus de noms de rues aux Juifs dans le Nord que dans le Sud. Okay. Mais ça tient peut-être au simple fait que dans les bases de données, par exemple, de l'Institut Géographique National, avec lesquelles j'ai travaillé, les noms en français, enfin, en tout cas les noms en langue d'oeil, ont été mieux transcrits en français que les noms en langue d'oc. Hein, parce que, alors il faudrait faire toute une explication linguistique, mais donc on les retrouve mieux, ils se sont mieux conservés, on pourrait dire, que les noms en Languedoc qui étaient très différents des appellations françaises modernes, contemporaines, et où là on les retrouve moins. Mais c'est sûr qu'on a plus de rues aux Juifs en Normandie, en Bourgogne, oui, en Champagne.
Et que malgré tout, des vestiges, il y en a très peu en Alsace-Lorraine, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il y en ait davantage.
Alors,
Compte tenu du nombre de Juifs historiquement présents.
Alors oui, tout à fait. Alors il faut faire la part des choses, mais en Alsace et en Lorraine, on a beaucoup de vestiges modernes et de l'époque contemporaine. Hein. En revanche, des vestiges médiévaux, on n'en a pas beaucoup plus qu'ailleurs.
Des traces de la synagogue la plus ancienne, c'est dans le sud aussi ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les traces. Il y a deux synagogues documentées. Il y en a une qui est toujours en élévation, qui est une petite synagogue rurale médiévale à Roufac, hein, en Alsace, qui est un bâtiment privé et qui vient de faire l'objet d'un travail par une étudiante allemande, dont on attend évidemment beaucoup. C'est très intéressant. Ça n'avait jamais été étudié depuis le début du XXe siècle, et au début du XXe siècle, plutôt pas très bien, par un chercheur allemand à l'époque, puisqu'on était, l'Alsace était allemande. Et puis, il y a l'extraordinaire monument qui a été découvert en 76 dans la cour du palais de justice de Rouen, qui est un bâtiment du 11e siècle, un bâtiment roman magnifique, dont il reste un étage et demi, enfin, les murs en élévation sur un étage et demi, et où on a retrouvé des inscriptions qui font que un certain nombre de Rouennais l'appellent la maison sublime. Moi, je préfère dire la synagogue de Rouen. Bon, je trouve que c'est plus simple. C'est le plus probable en tout cas. Et d'ailleurs, il y a eu des études récentes qui montrent que probablement on avait au premier étage des banquettes sur les côtés pour pouvoir s'asseoir et sur le mur est, une niche. Hein, dont on retrouve un moignon en vérité, mais et donc qui était probablement l'Arche Sainte.
Est-ce que cette histoire, est-ce que ces vestiges archéologiques portent le témoignage de la présence douloureuse des Juifs en France ? Entre expulsion, persécution ou tout simplement l'antijudaïsme ?
Alors le scientifique que je voudrais être vous dira que les pierres ne crient pas. Hein, donc même si la formule poétique a été employée par d'autres. Et par ailleurs, moi j'essaye de ne pas reproduire, et notamment dans le travail que nous faisons au musée, de ne pas reproduire le lieu commun de la vallée des larmes, hein, de la vallée de larmes. Le judaïsme, ça n'est pas qu'une vallée de larmes. C'est aussi des moments de convivencia, comme diraient les Espagnols. Hein, mais il est certain que toutes ces rues aux Juifs témoignent de communautés qui ont été chassées du territoire français, en particulier par Philippe Auguste et par Philippe le Bel. Nous savons que Saint-Louis a fait brûler, dit la chronique, 24 charretées de Talmud, hein, à telle enseigne que d'une certaine manière nous avons perdu cet extraordinaire patrimoine que Gérard Naon appelait le Talmud de France. Hein, même si reste évidemment les commentaires de Rashi. Mais il y avait une littérature rabbinique absolument considérable. Elle a disparu en 1242 dans un grand auto-da-fé devant ce qui est aujourd'hui l'hôtel de ville, hein, place de Grève, à Paris. Et il n'est resté des communautés, après les expulsions médiévales, que dans le comtat venaissin et à Avignon. Et puis je laisse de côté l'Alsace parce que l'Alsace n'est pas dans le royaume de France à l'époque. Hein. Ensuite, il y a des communautés qui se reconstituent et qu'on peut d'ailleurs étudier archéologiquement sur la côte aquitaine et en Lorraine. Et là aussi, sous Henri II, en fait, hein, sous le roi Henri II, dans un cas, c'est probablement pour enquiquiner le roi d'Espagne sur la côte aquitaine. Il accepte que des nouveaux chrétiens, qui sont des juifs ibériques, hein, portugais ou espagnols, s'installent alors à Bayonne, à Bidache, à la Bastide Clérance, à Peyrorade, et puis à Bordeaux, hein, ça a été bien documenté. Et d'ailleurs, Gérard Naon, je citais tout à l'heure, a fait un vrai travail archéologique, même s'il n'était pas archéologue, pour documenter ces cimetières de ces petits villages où les Juifs ont vécu du 16e ou 18e siècle. Puis après, avec l'émancipation, ils ont pu quitter ces villages et partir dans les villes. Et c'est très intéressant parce qu'on voit sur leurs tombes comment ils retrouvent une nomination des prénoms, qui est une nomination biblique, alors que lorsqu'ils arrivent, donc les premières inhumations, les premières tombes, ils ont tous des prénoms chrétiens. C'est fascinant. Hein. Et donc, en une génération, ça bascule, probablement parce qu'ils arrivent nouveaux chrétiens, convertis, baptisés de force, ou enfin comme ils ont pu, hein, on ne va pas leur jeter la pierre. Et la génération suivante, comme ils sont tolérés comme juifs, même si la fiction, c'est que c'est des nouveaux chrétiens, eh bien, ils donnent des prénoms bibliques à leurs enfants. C'est magnifique.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de la fréquence juive, en compagnie de Paul Salmona, qui nous parle de son archéologie du judaïsme en France. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre propos n'est pas d'évoquer les juifs en tant que membres d'une religion, mais plutôt comme issus d'une même civilisation, et que face à Rome et à Athènes, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que Jérusalem, finalement, a réussi à trouver sa place dans le récit de l'histoire de France ?
Ah, on aimerait. On aimerait. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Ce qui est très frappant, c'est que les archéologues avec qui j'ai travaillé étaient très peu formés au fait qu'ils étaient susceptibles de trouver des vestiges juifs en France. Hein, c'est vraiment ce qu'on a appelé une tâche aveugle, hein, dans le récit national. Et pourquoi sont-ils peu formés ? Bah, parce que les historiens eux-mêmes sont assez peu formés. C'est un point aveugle. Hein, il y a d'excellents chercheurs en France. Il y a une école historiographique qui a travaillé sur la présence juive depuis le 19e siècle, hein, depuis le développement en France de l'équivalent de la fameuse Wissenschaft des Judentum, hein, la science du judaïsme allemande. Et on a eu de très, très grands chercheurs, notamment Heinrich Gross, qui a publié cette Gallia Judaica à la fin du 19e siècle. Mais c'est curieux. On peut tout à fait, en France, faire des études d'histoire, hein, de très haut niveau, aller jusqu'à l'agrégation, même enseigner à la fac sans avoir jamais entendu parler de cette présence juive qui remonte à l'Antiquité et qui, c'est un fait original, d'abord Les expulsions en France ont été pionnières. Hein. Les Capétiens ont été les pionniers pour expulser les Juifs avant le roi d'Angleterre, avant les rois d'Espagne, hein, les fameux rois catholiques. Et puis, une des spécificités de la France par rapport à l'Espagne ou l'Angleterre, c'est que des communautés se sont reconstituées. Hein. Donc, je l'ai dit, sur la côte aquitaine, en Lorraine... Qu'on a intégré les Juifs alsaciens au moment du rattachement d'Alsace en 1648. Et puis on avait ces Juifs du comtat venaisin qui ont beaucoup circulé dans le royaume. Hein. On a des tas de témoignages, j'en cite quelques-uns qui sont assez savoureux, puisqu'on a des procès au XVIIIe siècle de Juifs du comtat venaisin qui ont le droit théorique d'aller vendre des chevaux, des mules et des mulets dans tout le Languedoc et qui se font agresser parce que les commerçants locaux ne sont pas contents de cette concurrence. Donc des maquignons juifs qui se font agresser et qui font des procès hein, et qui les gagnent d'ailleurs. C'est assez intéressant. Et qui vont être d'ailleurs à l'origine de ces communautés qui vont se former dans des endroits qui ne sont pas le comtat venaisin, comme Nîmes, enfin comme le Languedoc, dont vont être issus un Adolphe Crémieux, par exemple.
Alors, la question de la tâche aveugle hein, des Juifs dans le récit national, c'est un sujet que vous avez abordé lors d'un colloque, un ouvrage passionnant apparu cette année. Mais finalement, l'archéologie, finalement, apporte des réponses que les autres sciences humaines auraient éludées sur la présence des Juifs en France et surtout sur cette ancienneté ?
Oh ben il faut considérer la recherche comme une démarche de façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire toutes les sciences se complètent. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup plus d'archives textuelles. Depuis le Moyen-Âge, pas pour l'Antiquité, hein. Pour l'Antiquité on n'en a pas beaucoup, ouais. mais pour le Moyen-Âge on en a énormément, notamment des archives latines ou en langue vernaculaire, et puis évidemment des archives hébraïques, mais ce qui prouve d'ailleurs, les archives latines et les archives en langue vernaculaire prouvent que des historiens qui ne seraient pas hébraïsants d'ailleurs peuvent travailler dessus, hein. Il y a un magnifique travail de Céline Ballas sur l'expulsion des Juifs de France, elle a travaillé sur les archives royales, sur la vente aux enchères, enfin les ventes aux enchères des biens juifs, accaparée par la couronne, c'est des archives latines. Bon, mais c'est complémentaire, c'est-à-dire et l'intérêt évidemment des vestiges archéologiques, c'est leur côté irruptif en quelque sorte. Hein, quand vous découvrez la synagogue de Rouen, c'est un fait matériel, qui est incontournable, hein, comme on dit maintenant.
Et de ce côté-là, par exemple, il y a très peu de témoignages écrits de la présence juive.
Il y a quand même des documents sur les Juifs en Normandie. Il y a un énorme travail de l'historien américain Norman Golb.
Oui. De Rouen, la Maison Sublime.
Oui, voilà, absolument. Mais tout ça est complémentaire. Et surtout, évidemment, les vestiges archéologiques, ils ont une présence physique dans un musée, dans l'espace urbain. Hein. Si la synagogue de Rouen était véritablement accessible et visitable, à mon sens, ça serait un des points forts de la visite tout simplement touristique et patrimoniale de la ville de Rouen. De la même manière que la synagogue de Carpentras ou la synagogue de Cavaillon sont des lieux importants touristiques.
Que l'on peut visiter plus facilement que cette fameuse grande synagogue de...
Absolument, oui. La ville de Rouen a fait des travaux et normalement on devrait pouvoir désormais la visiter, mais enfin, ce n'est pas dans des conditions optimales. En revanche, la synagogue de Carpentras est, je crois, le monument le plus visité de la ville.
Alors, c'est un sujet peut-être un peu délicat, mais qui est abordé, en tout cas, quand on s'intéresse à l'archéologie et quand on pense à l'État d'Israël. Alors là, vous êtes un scientifique, presque un universitaire, qui, à partir de traces concrètes, eh bien, écrit une sorte d'histoire de l'archéologie. Et on sait qu'en Israël, l'archéologie est utilisée comme un sujet politique aussi pour déterminer des enjeux de territoire. Est-ce que ces questions sont aussi politiques en France, en termes d'archéologie ?
Où elles le sont, mais je le dirais au bon sens du terme. Hein, l'archéologie a toujours fait l'objet de manipulations, d'utilisations politiques. Hein. Ça remonte à des rois mésopotamiens qui se référaient à leurs prédécesseurs avec des pierres de fondation. Donc c'est pas une chose nouvelle. Ce qui est intéressant dans le cas des découvertes en France, c'est qu'elles font surgir le souvenir à travers des témoignages matériels, de la présence juive, antique ou médiévale. Et ça montre à l'ensemble de la cité que cette cité n'était pas... était multiculturelle, hein, qu'il y avait des minorités. Elle rappelle aussi l'histoire des expulsions, hein, qui ne sont pas absolument à la gloire des rois de France. Hein, et de ce point de vue-là, elles sont intéressantes politiquement. En tout cas, elles sont intéressantes en termes de connaissances. Hein, la connaissance, c'est toujours utile.
Alors ma question qui sous-entendait tout ça, peut-être qu'elle est extrapolée quand on parlait tout à l'heure de tâches aveugles, est-ce qu'il y a une volonté politique en France de ne pas exploiter ce sujet de l'archéologie du judaïsme ? Ou c'est simplement un oubli ? On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs, d'ouvrages, de recherches ou de colloques, excepté ceux que vous avez faits sur cette question.
Alors je ne crois pas que ça soit une volonté. D'ailleurs, les historiens juifs eux-mêmes sont plutôt, deux grands historiens juifs plutôt, il faudrait dire, comme Marc Bloch ou comme Jules Isaac, ont été plutôt elliptiques sur le sujet. À mon avis d'ailleurs, dans un souci très citoyen de ne pas insister sur les particularités, hein, comme l'ont été les juifs de France, les israélites, pendant un siècle et demi, hein, grosso modo jusqu'à l'occupation. Et je ne crois pas que ça soit une volonté politique, je pense que c'est plutôt une addition de causes malheureuses en vérité. Hein. Et aujourd'hui, il y a une véritable volonté. D'ailleurs, j'ai été sollicité récemment par le Conseil national de la recherche archéologique pour venir présenter mon livre et pour contribuer à la rédaction du programme de recherche des 5 prochaines années. Donc, et il y a un certain nombre d'archéologues que ça intéresse. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui se spécialisent. Le point peut-être encore un tout petit peu dur, j'ai envie de dire, c'est du côté de l'école historienne, où on a du mal à admettre qu'on pourrait peut-être mettre un peu plus l'accent dans les grands ouvrages de synthèse sur ce sujet.
Alors justement, est-ce qu'il reste des choses à découvrir ? Est-ce qu'il y a des chantiers que vous n'abordez pas dans votre ouvrage et qui sont en cours en ce moment de découverte ?
Oui.
Oui.
Mais par respect pour les chercheurs, je n'ai pas cité ce qui n'était pas publié. Vous savez, c'est une règle en science, c'est-à-dire que c'est celui qui découvre qui publie. Hein. Donc, mais il y a une découverte tout à fait fondamentale dans le sud de la France qui devrait être publiée dans les mois à venir, qui sera probablement l'exemple le plus important jamais fouillé. Par définition... quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Hein. Pardon de cette formule un peu alambiquée.
Mais on comprend tout à fait.
Voilà, et donc j'espère par exemple qu'on trouvera un jour à Arles les vestiges d'une synagogue antique. Hein. Pourquoi n'y en aurait-il pas une ? En tout cas, on peut se poser la question ces termes-là. Il y en a une à Ostie qui est un port fluvial, le port de Rome au débouché du Tibre, enfin à l'embouchure du Tibre. On pourrait tout à fait imaginer qu'Arles, qui était une grande ville romaine, avait une synagogue. Alors, encore faut-il arriver à la caractériser, bien entendu. Hein. Les vestiges ne sont pas toujours très bavards. Mais on peut imaginer ça. On peut imaginer de la même manière qu'on retrouve des vestiges dans les grandes villes qui étaient Lyon, etc., etc. Et puis surtout, on sait, on connaît par les archives l'existence, mais pas l'emplacement, de près de 140 cimetières juifs médiévaux. Or, à ce jour, on n'en a fouillé que 3 ou 4.
Alors, en tout état de cause, quand on termine votre livre, qui est richement illustré, hein, qui se lit très facilement, on a envie de prendre son bateau de pèlerin et de faire le tour de France et d'aller découvrir tous ces lieux, ces endroits, ces vestiges. Est-ce que c'est possible ?
Plus ou moins. Les sites d'archéologie dite préventive sont des sites qui ont ensuite été aménagés. Donc on ne retrouve pas nécessairement... Enfin, il n'y a pas forcément quelque chose à voir. Hein. Mais il y a aussi des sites qu'on peut voir. Le petit cimetière de l'Île-sur-la-Sorgue, par exemple, oui. est un endroit magnifique. Le cimetière de Carpentras est un endroit extraordinaire. Hein. C'est un endroit très, très préservé. J'ai cité tout à l'heure ces 2 synagogues. On peut voir la synagogue de Rouen. On peut voir l'extérieur de la synagogue de Roufac. On peut voir les emplacements. Hein. Oui. On peut se promener dans les juiveries des quartiers, hein, dans les rues de la juiverie, les rues aux juifs, et imaginer hein, ce qu'était cette présence juive. C'est toujours en plein cœur de la cité médiévale, hein, donc en plein cœur du centre urbain, en fait.
Et puis on peut aller aussi au musée d'art et d'histoire du judaïsme, où des vestiges aussi sont présentés. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission pour conclure. Si en une phrase, vous deviez donner l'envie aux auditeurs et aux auditrices de la fréquence juive de se procurer votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Que c'est une histoire des Juifs de France à travers les vestiges archéologiques qui manquaient jusque-là et qui est une manière de se promener à travers tout le territoire et à travers le temps. Elle est très illustrée, donc on peut l'appréhender peut-être de manière plus vivante qu'une histoire purement textuelle.
Merci infiniment, Paul Salmona, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de parler avec nous de votre actualité. Je rappelle la parution de l'archéologie du judaïsme en France aux éditions La Découverte. Et vous l'avez compris, hein, c'est un ouvrage que l'on recommande ici. Eh bien, bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir.